14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors, les années passent pour tout le monde et j'oserais d'ailleurs dire que c'est la seule égalité pour tous. Nous avons 24 heures par jour, eh bien, à chacun d'utiliser au mieux ses heures et en faire ce qu'il en a envie. Seulement, voilà, il y a finalement peu d'informations essentielles sur la manière de mieux utiliser son temps. Et puis surtout, à quoi sert ces jours, ces mois, ces années qui passent si nous ne sommes pas en mesure d'en profiter pleinement? Et pour en profiter pleinement, ne faut-il pas être déjà en bonne santé? Alors figurez-vous que nous avons la possibilité de mieux vivre et de vivre plus longtemps grâce à mon invité qui va vous donner des tas de bons conseils. C'est Jean Pélissier qui est avec nous et il va vous expliquer comment continuer à vivre dans les meilleures conditions. Alors quel que soit votre âge, si vous avez envie de ces conseils, je vous invite à venir tout de suite nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean Pélissier.
Bonjour.
Alors vous avez 120 ans.
Presque.
Non, je plaisante, hein, je plaisante. Vous n'êtes pas encore centenaire, mais vous venez de sortir aux éditions Albin Michel ce beau livre, je dis bien ce beau livre, hein, Secret de centenaire, une vie longue et heureuse grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Et donc dans ce livre, vous évoquez pratiquement tous les angles de la vie, hein, et comment les vivre justement en se respectant.
Tout à fait. Tiens, pour rebondir sur ce que vous disiez, une journée à 24 heures, eh bien, on pourrait, au travers de ce livre, comprendre qu'il y a 3 fois 8 heures, 3 fois 8, 24, 8 heures pour dormir, pour recharger sa batterie des reins. C'est le moyen essentiel, le sommeil. Il y a un chapitre qui est sur le sommeil là-dedans, parce que c'est ce que nous a donné la nature pour recharger notre batterie des reins, nos défenses immunitaires, nos facultés d'adaptation, etc. Or, à l'heure actuelle, il y a une majorité de gens qui ne dorment que 5-6 heures par nuit, ce qui est catastrophique.
Ils ont l'impression de perdre du temps.
Ils ont l'impression de perdre du temps.
Alors, ils vont peut-être en perdre sur les 24 heures, mais du coup, ils vont vivre moins longtemps.
Absolument, ils vont accroître leur espérance de vie. Et après, vous avez 8 heures pour travailler, mais heureux celui qui ne travaille pas, mais qui s'amuse en travaillant.
Bien sûr.
Donc, qui est en adéquation avec son âme, avec son câble de vie. Et puis après, vous avez 8 heures pour vous occuper de vous et des autres. Et par exemple, dans ces 8 heures, c'est là où vont entrer en jeu les repas, vos séances de relaxation, tout un tas de choses. Sauf qu'à l'heure actuelle, les gens perdent 3, 4, 5 heures sur leur portable, sur leur écran de télé, etc. Et donc, ces 8 heures qu'ils auraient pu mettre à profit pour aider les autres et
pour
s'occuper
être en relation,
de leur...
Voilà, au sens tout large du terme. Hein.
Au sens large du terme, eh ben, ils en perdent une grande possibilité.
Et c'est important parce que on sait très bien qu'être en relation, c'est se faire du bien. C'est faire du bien aux autres, ce qui nous fait du bien, et puis c'est recevoir et donc se faire du bien dans tous les sens du terme.
Tout à fait. Et par exemple, la médecine chinoise est basée sur ce qu'on appelle la dualité yin-yang. Le yin ne peut pas exister sans le yang et le yang ne peut pas exister sans le yin. Et bien, prenons un exemple. Si la finalité de notre état sur cette terre est l'altruisme, c'est-à-dire s'occuper des autres, eh bien, en contrepartie, il faut ce que j'appelle mettre en œuvre ce qu'on appelle une politique d'égoïsme salvateur, c'est-à-dire s'occuper de soi pour avoir la force de s'occuper des autres. Et un praticien en médecine chinoise, la première chose qu'on lui apprend, c'est à ne jamais tomber malade pour être crédible vis-à-vis de ses patients. Et donc, on apprend des techniques comme cela, basées sur la respiration, sur le mouvement, sur la conservation d'un équilibre au niveau du mental et des émotions. C'est tout ce que j'ai voulu citer dans ce livre. C'est toutes les grandes, grandes facettes de choses que l'on devrait mettre en œuvre du matin jusqu'au soir. Mais que ça devienne quand même un peu compétence inconsciente, dans le sens où on se rend même plus compte qu'on respire en pleine conscience, par exemple. Mais au départ, il faut l'apprendre. Il faut le répéter, le répéter, le répéter.
Alors vous dites bien hein, l'importance de la respiration, vous venez d'en parler. Et alors j'ai vu le pire du pire du pire, c'est la cigarette.
Ah. La cigarette, le seul problème, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais entre autres, la fumée de la cigarette a un pouvoir desséchant absolument extraordinaire. Peut-être une très 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 bonne loi qui a été faite, c'est de plus fumer dans les lieux publics. Pourquoi ? Parce que quand vous partez à 50-60% d'humidité dans une pièce le matin, s'il y a 4 ou 5 fumeurs dans la même pièce, ça descend à 25-30% d'humidité. Or, quand on réfléchit sur la cigarette, c'est en même temps, on inhale Donc ça va dans les poumons, et en médecine chinoise, la peau appartient aux poumons, donc c'est un grand facteur de vieillissement précoce de la peau, donc d'apparition de rides, etc.
Oui, d'ailleurs, la peau, souvent, notamment des femmes hein, qui fument beaucoup,
se dessèche très vite.
Elle est très marquée, bien sûr.
Mais c'est aussi un aliment, parce qu'on l'avale, et ça dessèche tous les liquides organiques, et on peut expliquer que c'est une grande cause, par exemple, de rhumatisme, tout simplement, ou de gastrite, ou de problèmes inflammatoires. Et puis voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, dans les peuplades traditionnelles, ils savaient fumer, ils faisaient passer la fumée de la cigarette à travers de l'eau, donc c'est les fameux narguilés, le pipao, etc. Et du coup, vous n'avez plus ce problème desséchant de la fumée de la cigarette. Mmh. Voilà ce que j'enseigne un peu dans ce livre.
Et en tout cas, vous expliquez bien hein, les méfaits de la cigarette et vous donnez aussi des conseils pour arrêter de fumer.
Tout à fait.
C'est vraiment un livre très pratique qui est tout à fait passionnant. Il y a des choses comme ça aussi que j'ai trouvées intéressantes, qui sont peut-être pas si évidentes que ça. Vous parlez notamment des addictions. Et je trouve que c'est intéressant aussi de se rendre compte que toutes les addictions, ben, c'est un déséquilibre de l'énergie du foie.
Tout à fait.
C'est-à-dire.
Regardez.
Je regarde.
On dit en médecine chinoise que le foie gouverne tous les troubles obsessionnels compulsifs, tous les tics, les tocs et les états de dépendance. Il ne faut pas voir ça. Ce n'est pas le foie organe, c'est l'énergie du foie. Or, par exemple, quand vous avez des problèmes émotionnels, quand vous avez des blocages émotionnels, quand vous avez des tensions dans une famille, entre conjoints, avec les grands-parents, les parents, avec les enfants, etc., vous bloquez l'énergie au niveau du foie. Quand le foie stagne, la stagnation va générer de la chaleur, du gonflement de la douleur. Et en l'occurrence, l'énergie qu'on pourrait appeler l'énergie émotionnelle, qui est le trouble obsessionnel compulsif ou l'état de dépendance, va augmenter. En gros, quand vous avez le foie qui est complètement tendu émotionnellement, eh ben, vous allez être de plus en plus addictif au chocolat, aux drogues, à l'alcool, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on explique. Mais quand vous comprendrez dans ce livre qu'il y a un cycle, ce qu'on appelle le cycle des cinq éléments, en réalité, l'énergie des reins, en médecine chinoise, est la mère du foie. L'énergie des reins, c'est là où se trouve la batterie de notre organisme. Quand vous êtes fatigué, vidé...
Qu'on recharge par le sommeil.
Et quand cette batterie est à plat, elle ne contrôle plus le foie, et là aussi, les addictions apparaissent.
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui, justement, n'ont pas assez dormi vont prendre du café, de la cigarette, et puis après, éventuellement, de l'alcool au fil de la journée, alors qu'il ferait mieux de faire une bonne sieste, quoi.
10 minutes de relaxation en médecine chinoise, c'est 3 heures de sommeil en tant que facteur de récupération.
Et vous parlez aussi dans ce livre, et on y reviendra tout au long de cette émission, de l'amour, de la sexualité. Vous parlez évidemment aussi des aliments, hein, mais c'est peut-être moins le propos de cette émission. Bref, on va en parler aussi avec vous et je vous invite à nous retrouver au 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Jean Pélissier qui nous confie les secrets de centenaire pour vivre bien longtemps, certes, mais bien surtout. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Jean Pélissier qui est avec nous. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, je vais demander l'âge de tous les auditeurs. Hein. Vous avez quel âge, Michel ?
65 ans.
65 ans, d'accord. Oui. Et alors, vous êtes en forme ?
Très, très, très particulièrement très en forme.
Super, ouais. Super. Et grâce à quoi, ouais, alors?
Grâce à une prise de conscience à l'âge de 60 ans, parce que j'avais un métier qui m'imposait de manger toujours à l'extérieur, dans des conditions toujours stressées ou anxieuses, etc. Et quand j'ai pris la retraite, j'ai fait un break de tout ça. Et j'ai décidé de m'orienter dans une alimentation, un peu de spiritualité. Et tout va pour le mieux. Voilà, toutes les douleurs qui ont disparu.
Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses. Déjà, Jean Pélissier, à partir de quel âge faudrait-il prendre conscience qu'on vieillit et faire attention? Parce que donc là, Michel, c'est sa retraite qui lui a permis. Hein,
en gros, j'ai 3 ans de plus que vous. Et... Je pense que, en réalité, il y a trois périodes dans la vie. Il y a une période qui va jusqu'à l'âge de 30-35 ans, et où on a quand même des capacités de récupération qui sont assez importantes. Et quand on commence à avoir un déséquilibre dans sa vie, et ben on a la possibilité de remonter de retrouver un équilibre et même d'aller au-delà de cela. Après arrive l'âge de 50 ans. Normalement, théoriquement, on devrait vivre en tant qu'être humain 100 ans, je pèse mes mots, mais vivre et s'éteindre en bonne santé. La mort n'est pas du tout une pathologie, n'est pas une maladie, c'est l'extinction de quelque chose.
Pour mourir en bonne santé, il faut se suicider. Hein.
Et à partir de 50 ans, eh bien, quand on a une pathologie, eh bien, on descend d'un cran et puis après on peut remonter et retrouver juste le cran qu'il y avait avant. Mais, sauf qu'à partir de 60, 60, 65, 70 ans, chaque fois qu'on a une petite pathologie, on descend d'un cran, on ne peut pas remonter. Et c'est ce qu'on appelle le vieillissement précoce. Et donc, c'est vrai que, vous avez tout à fait raison, le mental et les émotions peuvent libérer la circulation de sang et d'énergie dans l'organisme et faire que des stagnations qui perduraient à quelque endroit du corps peuvent se libérer grâce, justement, au relationnel, ne serait-ce qu'avec le ciel, la spiritualité, et ainsi de suite. Le tout, c'est d'être vraiment en équilibre avec soi. Mais quand même, ça n'empêche pas de pratiquer régulièrement et de pratiquer les respirations conscientes, les méditations, les relaxations, etc. etc. Vous savez, les gens ont toujours peur. Ils connaissent 10 000 techniques, mais ils ne pratiquent rien. Ou ils devraient, si vous leur demandez depuis ce matin combien de fois vous avez respiré en pleine conscience, alors que vous avez appris que la respiration était importante, « Ah, j'ai oublié, je remettrai à demain. »
Et notre maître... J'ai pas eu le temps.
Voilà, j'ai pas eu le temps. Et notre maître nous disait, « Vous pouvez mettre ce que vous voulez en œuvre au quotidien pour booster votre batterie des reins. Si vous ne respirez pas 200 à 300 fois en pleine conscience dans la journée, tout le reste ne sert à rien. » Donc c'est évident que voilà. Donc vous êtes sur la bonne voie et j'en suis fort content
pour
vous.
Donc Michel, déjà, a une bonne alimentation, c'est pas rien.
Tout à fait.
Vous avez évacué le stress, parce que ça aussi, ça doit être super négatif, le stress, j'imagine.
Le stress, c'est ce qui vidange littéralement des défenses immunitaires. Donc c'est évident qu'il faut l'évacuer. Et au niveau de l'alimentation, là aussi, souvent les gens sont trop extrémistes de l'alimentation. Et si on leur disait que, tout simplement, ils mangent trop. Et que, tout simplement, il suffit de manger 30% de moins pour se porter 10 fois mieux. Et alors, on a des règles comme ça dans la diététique chinoise, que j'explique dans le livre, c'est qu'à partir du moment... Bon, il y a deux types de repas. Les repas de fête, là, on peut se lâcher. Mais les repas quotidiens, il suffit de ne pas manger d'entrée et de sortie, manger l'assiette unique, et du coup, vous allez ne vous emporter que mieux. Voilà, ce sont des règles simples, très simples à mettre en œuvre, mais encore faut-il les connaître. Voilà.
Et justement, je crois, Michel, vous aimeriez poser quelques questions sur à Jean Pélissier.
Oui, en fait, disons que j'ai changé mon alimentation. Mm-hmm. J'ai commencé à 60 ans à me diriger vers la bio. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que plus je rentre dans ce processus alimentaire, plus j'ai l'impression que mon organisme me demande de manger cru. Mm-hmm. Alors, et depuis que je mange cru, je me sens alors vraiment encore. Je me sens, je ne sais pas comment vous expliquer.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Je respire beaucoup mieux.
Voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a des typologies qui sont plutôt yang, comme l'est le masculin, où il y a beaucoup de chaleur interne, et puis il y a des typologies qui sont plutôt yin. C'est comme une femme qui est très introvertie et qui fait facilement de la rétention d'eau et qui est facilement fatigable, etc. Manger cru ou manger trop...
Cuit ?
Comment dire ? Pas assez cuit les aliments, eh ben, peut être négatif. Sauf si vous mastiquez l'aliment 20 à 30 fois pour le cuire dans votre bouche. Par contre, vous deviez avoir un tempérament stressé, donc relativement sanguin, etc. Et alors, le simple fait de vous être mis aux crudités a ramené un peu de yin pour calmer le yang, pour calmer le feu. Et donc, vous avez peut-être effectivement retrouvé un équilibre comme cela. Mais faites attention, parce qu'à un certain moment, eh bien, vous risquez de retourner le truc et continuez à manger comme vous mangez, mais insistez sur la mastication et sur la cuisson des aliments dans la bouche grâce à la mastication. Voilà.
Merci pour le conseil.
D'accord, et bien donc vous pouvez continuer à manger cru, mais mastiquer.
Voilà.
Mais ça paraît assez cohérent d'ailleurs, ce que vous dites finalement. Moi, c'est ce que j'aime bien dans la médecine chinoise, c'est qu'au fond, c'est plein de bon sens.
Complètement, finalement. Tout à fait. Oui. Et puis c'est d'ailleurs une médecine qu'on retrouve dans toutes les traditions. Vous savez, la médecine chinoise, avant tout, n'est pas au départ une médecine thérapeutique, c'est une médecine préventive. Elle apprend tout simplement aux gens à ne jamais tomber malade. Et c'est clair. Ça devrait être, même dans notre propre médecine occidentale, on devrait faire des cours de prévention, mais dès le plus jeune âge. Alors que nous, on attend d'avoir accumulé plein de déséquilibres. Et puis après, effectivement, il faut traiter les bobos. Et ben, c'est la médecine qu'on s'est créée.
Et vous faites un peu d'activité physique, j'imagine, Michel, maintenant que vous avez le temps.
Énormément.
Bah, pas trop non plus, hein. Attention. Le juste effort. Hein,
Tout va très bien. Je gère. Hein. Bon. Je gère mes capacités.
Donc, voilà. un homme heureux.
Heureux, bon, ça, tout est relatif, mais ça va. Au niveau santé, ça va.
Bon.
Voilà. Le problème, c'est que je trouve que en France, politiquement, on ne nous met pas sur cette bonne voie comme on nous met dans comme les pays asiatiques.
Eh bien, peut-être que les choses changeront comme cela. Vous savez, la médecine chinoise est basée sur ce qu'on appelle le taoïsme, la voix, ce qu'on appelle la voix. Et on peut comparer ça, je ne sais pas, par exemple, le fleuve jaune, un grand fleuve. Et à l'heure actuelle, il y a trop de gens qui veulent brutalement aller contre la voix. Et donc, ils se retournent, et ils veulent atteindre la berge d'en face, mais ils vont s'épuiser, et on ne réussit pas. Je pense que plus de gens s'intéressent à cette mouvance, à cette voie que sont les médecines traditionnelles, eh bien, au travers des différentes interventions et pratiques des gens, on va pouvoir faire changer le courant doucement, sans qu'il y ait obligatoirement de révolution. Sauf que là, à l'heure actuelle, eh bien, on se rend bien compte qu'on va contre tout le temps, et c'est jamais productif, vraiment productif.
En même temps, Jean Pélissier, on n'a jamais autant parlé de la médecine chinoise, du yoga, de la conscience, de la respiration.
Et c'est excellent, c'est de bonnes vibrations, absolument.
Donc il y a quand même toute une partie de la population qui a pris conscience de ça, mais c'est vrai que pour l'instant, la majorité, vous avez raison Michel, est un petit peu en train de nager à contre-courant. Mais bon, ils vont s'épuiser peut-être avant nous, Michel, on peut y croire, hein.
Ah mais oui, moi j'y crois, tout à fait.
Bon, ben d'ailleurs, on y croit.
On le voit, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci pour vos émissions, c'est toujours super. Merci.
Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec Christophe Médici pour notre Sexy News. On va parler évidemment des nouvelles technologies, comme toujours avec Christophe.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant... Sexy News.
Eh bien, Jean Pélissier, je vous propose d'écouter Christophe Médici, notre reporter qui est toujours sur le terrain pour nous parler des nouvelles technologies. Bonjour Christophe.
Bonjour Brigitte, ravi de vous entendre.
Merci.
Bonjour.
Alors, que vous nous racontez aujourd'hui?
Je vais vous parler de la nouvelle guerre des âges. Brigitte, comme vous le dites, je suis envoyé spécial de l'émission pour voir un petit peu cette guerre qui est en train d'arriver d'une manière haute un peu plus sur les réseaux sociaux en ce moment. Si je vous dis TikTok, Brigitte, ça vous fait penser à quoi, TikTok?
J'avoue que je sèche, c'est pourtant pas mon habitude.
Avec un K à la fin de TIC et un K à la fin de TOC. Brigitte, c'est l'appli et le site réseau social préféré des pré-ados et des ados.
Oui, bah, je ne sais pas trouver. Hein.
La moitié des pré-ados et des ados français sont dessus. Et dans le monde entier, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Alors pourquoi je vous parle de TikTok et de la nouvelle guerre des âges, Brigitte? Eh bien, il y a quelques semaines, il y a un petit jeune de 14 ans, un petit jeune américain, qui était en train d'échanger avec un senior, vous savez, un senior, enfin, un baby-boomer, en fait, et que ce baby-boomer dénigrait ce petit jeune, cet ado, en lui disant que sa génération avait rien compris, que de toute façon, il dénigrait tout, ils étaient contre tout, mais il fallait qu'il grandisse et qu'il mûrisse. Et ce jeune, sur un petit écriteau, Brigitte, a mis ces deux mots, qui en ce moment sont en train de faire le tour de la planète, il lui a répondu « Ok, boomer ». Ok, boomer, ça vous fait penser à quelque chose, Brigitte, hein? À quoi, au boomer?
Au baby boom.
Exactement, bravo.
Merci Jean.
Bravo Jean. En lui disant ça, autrement dit, il lui disait « cause toujours baby boomer ». Et évidemment, tout le monde sait que c'est la génération née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, hein? Tous les gens nés à partir de 45. Et en fait, en quelques semaines, Brigitte, c'est devenu, comme a titré Le Monde il y a quelques semaines, le nouveau cri de ralliement d'une génération, a titré Le Monde. Ok boomer, la nouvelle lutte des âges, a dit Le Figaro. Et ok boomer, c'est devenu quelque chose... Alors, à la vérité, Brigitte, cette guerre des âges est en train de se développer parce qu'il y a une politicienne...
Je trouve ça triste, hein, Christophe, ce que vous êtes en train de me raconter.
Oui, mais en même temps, en ce moment, c'est un petit jeu qu'il y a entre ces deux générations-là. Ceux qu'on appelle les millennials, vous savez, ceux qui ont entre 15 et 22, 24 ans, quoi. Hein. Et il y a une députée néo-zélandaise qui s'appelle Chloé Swarbrick, qui est très jeune, hein, elle a 25 ans, qui était en train de développer, elle est du Green Party, donc évidemment elle est écologiste. Vous savez que cette génération des jeunes sont très écologistes, hein, évidemment, très pour sauver la planète.
Oui, ça je sais, oui.
Ah ouais, et c'est important. Et en plein discours, un senior, parce qu'évidemment dans les hémicycles, il y a plutôt des baby-boomers que des 25 ans, cette Chloé Swarbrick, voulait la gêner. Et vous savez ce qu'elle lui a dit, Brigitte, en plein moment donné, pour le calmer, elle lui a dit « Ok, boomer, ok, boomer ». Et alors, cette petite vidéo-là, où cette jeune députée a dit « Ok, boomer » à ce, évidemment, député, a fait le tour de la planète. Alors, en ce moment, ces derniers temps, sur les plateaux télé, on demande aux baby-boomers, assez connus, aux stars du baby-boomer, ce qu'ils en pensent de cette lutte. Alors, il y a deux familles, en fait. Il y a des gens, par exemple, comme Pascal Bruckner, que vous connaissez, évidemment, le philosophe, hein, qui dit « Écoutez, oui, nous, on a été 68-ards, nous, effectivement, on a fait ça, mais les jeunes générations, elles n'ont pas grand-chose à proposer. Moi, je trouve qu'elles sont un peu perroquets, donc moi, je leur dirais « Ok, perroquet ». Alors, lui, il est un peu contre les jeunes. Quant à Thierry Lhermitte, par contre, qui lui aussi est baby-boomer, il dit « Les jeunes ont raison, les baby-boomers ont commencé par faire chier leurs parents et maintenant ils font chier les jeunes ». Voilà. Donc il y a vraiment ces deux générations-là qui se mettent à une petite lutte sur les réseaux sociaux en ce moment. Et cette querelle des anciens et modernes, vous êtes d'accord, Brigitte, rien de nouveau sous le soleil.
Ah bah, bien sûr, c'est exactement ce que j'allais dire, de toute façon. Et je trouve d'ailleurs, je ne regarde pas énormément la télévision, mais forcément je la regarde, je trouve qu'il y a il n'y a pas assez de jeunes experts. Vous savez, dans beaucoup d'émissions, il y a toujours plein d'experts. C'est vrai qu'on pourrait espérer qu'il y ait un peu plus de mélange de générations, justement, dans notre société. Ça serait bien, ça aussi.
Oui, c'est vrai. Un regard intergénérationnel serait très intéressant. D'ailleurs, pour synthétiser un peu cette querelle, on pourrait dire que c'est Millennials contre Baby Boomer. Et vous savez que l'égérie 2019, celle qui a été nommée la personnalité de l'année 2019 par Time Magazine, c'est justement une millénials, puisque c'est la jeune Greta Thunberg. Mmh. Hein, vous le savez, moi, j'ai dit il y a 6 jours,
oui, elle a été nommée. Oui, j'ai entendu ça. Ça m'a un peu consterné, mais j'ai entendu ça. Oui.
On sent que vous la portez, vous l'aimez bien. En conclusion, je dirais.
Vous savez, j'ai eu quelques échos de quelques proches qui sont psychologues, psychanalystes ou psychiatres, et qui se posent quand même des questions sur sa santé mentale. Alors bon.
Carrément.
Je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Hein. Je suis un peu perroquet, je le reconnais.
En conclusion, Brigitte, je dirais que, puisque j'ai entendu beaucoup parler du taoïsme et de Confucius, et que j'aime beaucoup le taoïsme, moi aussi, vous parlez beaucoup mes petites chinoises lors de l'émission, là. En conclusion, je dirais que, au baby-boomer, quand même, cette phrase magnifique de Confucius, l'expérience des autres est toujours un peigne pour chauve. Voilà.
Ah, pas mal. Ça,
oui, puis alors, grâce à Jean Pélissier, les jeunes ne sont pas prêts d'être débarrassés de nous.
Hein. Il est formidable, Jean. En tout cas, continuez. Et puis voilà, c'était des nouvelles du front, Brigitte. C'était des nouvelles du front de la guerre des âges. Voilà.
Eh bien, merci, Christophe Médicis, de nous tenir au courant, parce que comme ça, on aura l'air d'être un peu moins vieux cons. Merci. Isabelle est avec nous maintenant pour son conscience sexuelle. Bonjour, Isabelle.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Alors, trois questions auxquelles j'espère vous allez pouvoir répondre. Alors, première question, qu'est-ce qu'on appelle une tournante ?
C'est plusieurs personnes, en fait. Il y a une dame et peut-être ou un seul homme, et en fait, ils se partagent le même partenaire.
C'est pas vraiment ça, hein, Isabelle. On est très loin de la définition d'une tournante. C'est quelque chose de très négatif, hein, une tournante. Là, vous me racontez un truc un peu libertin, sympathique, mais c'est pas du tout ça.
D'accord.
Alors, je vous ai aidé un peu, je vous ai dit que c'était quelque chose de puni par la loi, d'ailleurs.
Hein. Du coup, c'est un acte sexuel peut-être non consenti, avec plusieurs acteurs.
Absolument, on se rapproche un petit peu. C'est tout simplement un viol collectif. Et d'ailleurs, moi, je lutte beaucoup contre l'utilisation de ce mot « une tournante » parce que je sais le poids des mots et je trouve qu'on ne devrait jamais parler de tournante, mais toujours de viol collectif parce que c'est quand même quelque chose de terrible. Bon, alors, on va essayer de voir si vous arrivez à mieux répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qu'un rosebud ?
Alors là, je ne sais pas du tout.
Ah ah. Alors, un rosebud, ça fait partie des jouets intimes, même si ce n'est pas réellement un jouet. Ça ne vous aide pas du tout?
Non, du tout.
Bon. Ben, c'est un bijou qui se porte dans un endroit particulier du corps.
Du bis?
Ben, sur le pubis, on ne peut pas vraiment mettre un bijou. Enfin, hein.
Enfin plutôt, quand je dis pubis, c'est par rapport aux hommes.
C'est en effet un bijou qui peut se porter aussi pour les hommes, mais c'est plutôt les femmes qui le portent. Mais enfin, si, les hommes aussi peuvent le porter. Les homos, notamment, portent parfois des rose buts.
Non, du tout. Ça, du coup, ça me dit rien.
Ça ne vous dit rien du tout, mais je vous ai donné quand même quelques précisions, là. Ça devrait vous aider, quand même. Où est-ce qu'on pourrait, en tant qu'homme et femme, mettre quelque chose de sexuel et qui soit un bijou? Non, vous n'avez aucune idée. Bon.
Non.
Ben, c'est tout simplement une sorte de plug qu'on met dans l'anus et qui sous la face apparente, il y a toujours une sorte de bijou. Alors, ça peut être quelque chose qui ressemble à un diamant, un rubis. Enfin, bon, ce sont évidemment des bijoux fantaisie. Et donc, c'est pour agrémenter, si je puis dire, l'anus. Voilà. Bon, alors, troisième question. Enfin, là, de toute façon, je pense que malheureusement, je ne pourrais pas vous donner votre caution sexuelle. Comment s'appelait la cérémonie qui donnait des prix au genre pornographique? Les Césars des films pornographiques, comment ça s'appelait?
Je ne sais pas du tout.
Bon, ben, il va falloir réviser, Isabelle. Hein, il va falloir que vous révisiez.
Ah, j'avais oublié de participer pour...
Bon, et puis je crois que vous êtes occupée en plus. Bon, ça c'était les fameux hôtes d'or. Vous en avez, ça vous dit
D'accord.
quelque chose ou pas?
Non, du tout.
Bon, bah écoutez, hein, on révise, vous continuez à écouter l'émission, puis dans quelques jours, quelques semaines, vous serez peut-être apte à le passer, votre caution sexuelle. Merci en tout cas, après tout, c'est un jeu, hein, il faut s'en amuser. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir. On retrouve Maria maintenant. Bonjour Maria.
Oui, bonjour Brigitte, merci de m'accueillir dans votre émission.
Mais je vous en prie.
Voilà.
Je vous en prie. Alors, je demande votre âge, parce que c'est un peu le propos de l'émission aujourd'hui. Vous avez quel âge, Maria?
Oui, moi, j'ai 63 ans aujourd'hui.
Ah, nous avons des gens de la soixantaine en ce moment.
Oui, oui.
Et ouais, vous êtes, vous avez l'air d'être en pleine forme, en tout cas dans votre voix, on sent de l'énergie et du dynamisme. Est-ce que justement, on va parler de la voix d'ailleurs dans la deuxième heure avec Jean Habitbol, Jean Pélissier, mais est-ce que quand vous entendez la voix d'un auditeur, vous sentez si
Absolument.
L'énergie est bonne,
Bien
j'imagine
sûr. Hein c'est, de toute façon, la voix vient de deux logiciels organes en médecine chinoise, des poumons et des reins. Et quelqu'un, par exemple, qui est très, très fatigué, eh ben, il a la peine à parler. Mais ensuite, il va y avoir la tonalité de la voix. Par exemple, quand quelqu'un vient de faire la fête et qu'il a son énergie des reins trop épuisée, il va avoir une voix éraillée parce qu'il y a de la sécheresse dans la gorge. Donc, la voix fait partie entière du diagnostic en médecine chinoise, c'est évident.
Oui.
Mais vous avez une voix épanouie, belle, qui passe bien. Et donc, ça veut dire que vous avez une certaine forme, déjà.
Oui, puis comme la voix, alors elle est quand même aussi très dépendante de notre respiration. Plus on a une respiration qui fonctionne bien,
Absolument.
Plus on a une jolie voix. Enfin, c'est un peu simpliste ce que je dis.
Non,
vous pourriez
non.
le dire mieux que moi. Mais...
Ouais. Donc, d'autant plus que c'est une colonne d'air qui passe, qui appartient aux poumons. C'est un soufflet, les poumons. Hein. Mais si on ne veut pas trop la fatiguer, cette voix, eh bien, on va faire venir ce qu'on appelle la respiration abdominale. On va la faire venir à partir d'en bas, de l'énergie des reins, d'une colonne qui... Donc c'est tout un ensemble qui fait que quand on est fatigué, eh ben, d'abord on n'a pas envie de parler, ou alors quand on parle, on a une voix faible, ou plus ou moins éraillée, et ainsi de suite.
Voilà. Donc Maria, vous avez une voix dynamique.
Oh merci, merci à vous deux, ça me fait plaisir. Voilà, et moi je souhaitais partager avec vous donc comment depuis un certain nombre d'années maintenant, je dirais entre 20 et 25 ans, j'ai compris à quel point la santé était un élément important de notre vie et je fais tout ce que je peux pour maintenir ma santé en équilibre et c'est devenu un axe de vie pour moi.
Mmh. Et alors qu'est-ce que voilà. vous faites?
Alors, donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'avais besoin d'unifier mon être, parce que je me rendais compte que, voilà, je fonctionnais, j'avais un corps d'un côté, un peu la tête de l'autre, et j'ai compris qu'il fallait que je fasse tout un travail personnel pour arriver à réunifier le corps et la tête et à trouver une unité. Donc concrètement, voilà, moi ce que je voudrais vous dire un petit peu concrètement, comment en gros sur une année, je m'occupe de moi, de mon corps, de ma santé. Donc déjà, j'ai compris que par une alimentation saine, équilibrée, voilà, je mange le plus naturel possible. J'ai réduit aussi les quantités parce que j'ai choisi de manger bio et pour équilibrer et mon budget et ma santé. J'ai compris que c'était bien comme ça. Donc déjà, j'ai compris aussi que bah, du coup, j'avais plus d'énergie parce que mon organisme était moins encrassé. Voilà. Par choix de vie, je vis à la campagne, tout en ayant été citadine pendant très longtemps. Donc, je profite et je bénéficie bah, d'un environnement qui me convient. J'aime me promener, j'aime le contact avec la nature. Donc, tout cela contribue à me faire beaucoup de bien. Et je sais que pour ma santé, eh bien, j'ai un bénéfice. Voilà.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a une règle, comme ça, en médecine chinoise, c'est ni pas assez, ni trop. C'est-à-dire voilà. Que, par exemple, aller à la campagne comme vous êtes et se mettre à courir, ça sert à rien. Il faut marcher comme vous le faites dans la campagne, il faut respirer en pleine conscience, marcher en pleine conscience. Et là, vous nourrissez votre corps et votre âme. Et du coup, oui, c'est ça, ce sont les grandes choses qui nous permettent d'atteindre, une fois de plus, la longévité en bonne santé. Et j'insiste voilà. Là-dessus.
Voilà.
Ben, c'est très bien.
Ouais. Ensuite, alors en ce qui concerne effectivement le corps, je prends soin de mon corps dans les petits gestes de la vie quotidienne, dans l'hygiène. Voilà, vous en avez parlé, Brigitte, dans des émissions avec des invités aussi. Quand je prends une douche, je masse ma tête, je sens ce qui se passe, je sens l'eau couler sur mon corps. Voilà, et c'est pour les.
Mais ça, c'est très important ce que vous dites parce que on fait beaucoup trop de gestes sans vraiment les faire. Enfin, je veux dire, combien de gens se lèvent le matin à toute vitesse, vont prendre une douche toute vitesse, avalent à moitié debout leur petit déjeuner, partent. Et finalement, tout ça, ça ne profite pas au corps. Quoi.
Et Brigitte a tout à fait raison. Et ce qu'on développe vraiment dans ces méthodes de prévention en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est-à-dire, chaque chose que l'on fait, on le fait en pleine conscience et pas de façon automatique. Et du coup, vous décuplez les effets de cette chose-là sur le rééquilibrage de votre organisme. Donc vous êtes vraiment dans la bonne voie.
Gentil. Je peux encore dire des petites choses.
Mais absolument, Maria, vous êtes à l'antenne, allez-y.
Voilà, un petit exemple, quand je me lève le matin, je prends le... Bon, c'est vrai que j'ai 63 ans, j'ai la chance d'avoir pu arrêter mon activité professionnelle, hein. Mais je prends le temps de m'asseoir, je prends le temps de remercier la vie, de la belle journée que je vais passer, de sentir si mon corps va bien, voilà. Donc ça, voilà, ça fait partie de la conscience de mon corps. Voilà. Et puis au niveau des sports, effectivement, je pratique les sports que j'aime au rythme que j'aime, c'est-à-dire tranquille. Voilà, la marche, un peu de natation, parfois toute seule, parfois en groupe, ça dépend des saisons. Voilà. Les loisirs aussi. Donc moi, j'aime les livres. Je fais partie d'ateliers de lecture dans les petits villages, voilà, dans les médiathèques. J'aime le yoga, la méditation, et j'ai découvert le qigong aussi, donc qui est aussi une gymnastique énergétique chinoise. Mmh. Voilà. L'amitié, bien sûr. Alors, je la cultive comme un jardin parce que c'est précieux, voilà, et que c'est important aussi pour la tendresse et le partage. Donc, pour la médecine occidentale, moi, je suis très reconnaissante à la médecine occidentale qui m'a bien soignée, qui a dépisté chez moi des problèmes de santé et qui a équilibré ma santé. J'ai également eu la chance de faire une thérapie qui m'a aidée quand même à guérir une partie de mon enfance, on va dire. Voilà. Mais également, j'ai la chance d'avoir découvert, et depuis c'est la deuxième année, les cures thermales. Et je trouve ça excellent. Et c'est vrai que c'est millénaire comme soin également. Mais moi, je le pratique depuis 2 ans. Voilà. Et la thalasso avec mon mari, on aime bien une fois par mois aller, par exemple, faire un petit soin en thalasso parce que c'est délicieux et que le corps et l'esprit se réunissent aussi.
Et en plus, c'est une manière de vous retrouver avec votre mari, et ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs, justement, dans un instant, je propose, Jean Pélissier, que vous nous parliez de l'amour et de la sexualité, thème que vous abordez également dans ce livre Secret de centenaire. Merci beaucoup, Maria. Merci.
Merci.
On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Jean Pélissier qui nous propose de rester en bonne santé jusqu'au bout. Hein, c'est un peu ça. Et finalement, c'est un peu le désir de chacun. Hein, parce que à quoi ça sert de continuer à vivre si on est très malade.
Exactement.
On est bien d'accord. Secret de centenaire, c'est aux éditions Albin Michel. Alors, vous évoquez la sexualité aussi dans ce livre. Et il y a une manière aussi d'envisager sa sexualité pour la mettre au profit de notre bonne santé.
Oui, absolument. Et par exemple, dans le taoïsme, dont est issue la médecine chinoise, il est expliqué que la sexualité peut nous faire atteindre les plus grands âges, comme elle peut nous raccourcir notre espérance de vie et nous tuer prématurément. C'est toujours une question d'équilibre entre le yin et le yang. Alors, cette notion de dualité yin-yang est très, très importante. Par exemple, quand il n'y a pas une adéquation dans un couple, quand la femme est extrêmement bloquée parce que l'homme ne connaît pas la femme et qu'il va trop vers elle et qu'il la pousse à des extrémités que la femme n'est pas encore assez chauffée pour arriver à ce type de pratique, eh bien, petit à petit, qu'est-ce qui va se produire ?
Vous voulez dire, vous parlez là d'une pénétration à la hussarde,
exactement.
N'est-ce pas ?
Eh bien, du coup, la femme étant frustrée, elle est yin, l'homme est de plus en plus yang, eh bien, il va avoir une éjaculation précoce. En réalité, dans la dualité, il faut qu'il y ait un équilibre parfait entre l'homme et la femme, entre les deux personnes, les femmes ou autres. Mais il faut que cet équilibre soit là, et il faut cultiver cet équilibre, et c'est ce que j'explique dans ce chapitre.
Absolument, il faut que laisser du temps à la femme pour se chauffer.
Tout à fait.
Et que la femme, une fois qu'elle est chaude, puisse refroidir tranquillement l'homme.
Absolument. L'homme, par nature, est de nature yang. Il a ses organes sexuels qui vont vers l'extérieur. Il jette quelque chose à l'extérieur. Alors que la femme, au contraire, elle va être très intériorisée. Ses organes sexuels sont internes. Et elle est de nature yin, et donc il faut prendre le temps. C'est une évidence, c'est une première chose qu'on apprend en sexualité, en médecine chinoise.
Voilà, on peut rentrer que quand la porte est ouverte, ça me paraît tellement évident. Mais c'est toujours mieux en le disant. Caroline, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Alors Caroline, vous travaillez dans le domaine de la santé, hein, c'est bien ça ? Non, vous avez travaillé, pardon.
Oui, voilà. J'ai travaillé dans le domaine de la santé, j'étais paramédicale, j'ai travaillé dans le domaine paramédical, et ensuite, j'ai travaillé dans la recherche médicale. Mmh. Et à la cinquantaine, je me suis retrouvée sans poste, parce que j'ai suivi mon conjoint qui a été muté à plusieurs reprises. Et donc, j'ai pensé à une reconversion. Et j'ai toujours été attirée par le développement personnel. Donc, j'ai fait une formation en coaching pour devenir coach certifié. Et à la fin de cette formation, j'ai entendu parler d'une méthode basée sur la médecine traditionnelle chinoise qui permettait différents objectifs, mais qui pouvait être complémentaire à la médecine traditionnelle et surtout qui était importante dans la prévention. Et comme moi, je me suis toujours intéressée, et dans mon travail, j'ai travaillé dans la prévention. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, que ça pouvait être donc complémentaire.
Absolument. Et comme je le disais tout à l'heure, la médecine chinoise était avant tout une médecine préventive avant d'être une médecine curative.
Oui.
Il faut comprendre, par exemple, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Les gens ont peur de quelques symptômes que ce soit. Il faut savoir qu'un symptôme, quel qu'il soit, on a à peu près 900 symptômes possibles. Par exemple, vous avez un mal de tête de temps en temps, ou vous avez d'un seul coup un clignement d'œil, ou alors vous avez une petite lombalgie, etc., alors que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir ce type de symptômes. C'est juste le corps qui émet
un signal
d'alarme. Mmh. Et si vous avez la connaissance, parce que sous-entendu évidemment que si vous avez la connaissance, eh bien effectivement, vous allez commencer à repratiquer tout ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau du sommeil, au niveau de la sexualité, au niveau de la relaxation, méditation, etc. Et petit à petit, ce symptôme, signal d'alarme, disparaît. Et là, on est dans la vraie prévention. Alors que si on occulte ce symptôme, signal d'alarme, par exemple, admettons, je vais vous donner un exemple très, très, très simple. Vous êtes en conflit depuis quelque temps avec votre conjoint, avec vos enfants, etc. Vous n'aviez jamais mal de tête. Et petit à petit, d'un seul coup, vous commencez à avoir un mal de tête sur le côté, c'est sur le méridien de vésicule biliaire en médecine chinoise.
On prend un aspirine.
Voilà. Nous, on va. C'est un symptôme, signal d'alarme. Mais si vous prenez de l'aspirine tout le temps ou un antalgique tout le temps, eh bien, chaque symptôme, signal d'alarme, peut se retourner contre le corps. Et à ce moment-là, en l'occurrence, ça peut devenir la maladie migraineuse. Donc, il y a tout le temps un décrochage qui se fait. Au début, symptôme, signal d'alarme, on met en place toutes les techniques de prévention, le symptôme disparaît. Et ensuite, si on n'y prend pas garde, et si on ne met pas ces techniques de prévention en œuvre, à ce moment-là, c'est la maladie d'autodestruction qui apparaît. Et quand on a compris ça, on a compris pourquoi, et vous avez tout à fait raison, pourquoi les pratiques sont quotidiennes sont tellement importantes, et ce qu'on devrait initier déjà dès le plus jeune âge à nos enfants.
Oui. Et être aussi, je trouve, actif aussi dans sa santé, justement, aussi bien dans l'une ou l'autre des médecines. Quoi.
Absolument.
Caroline, restez avec nous, on va revenir sur justement la prévention qui n'est pas d'ailleurs très développée dans notre société, parce que notre société finalement, je crois que les lobbies pharmaceutiques n'ont pas tellement intérêt à ce qu'on se prenne notre santé en main. J'ai quand même un peu l'impression que plus on consomme des médicaments, plus ils sont heureux. Donc c'est peut-être une belle manière d'aider la sécurité sociale, finalement, Jean Pélissier.
Absolument, il faut faire des économies absolument incroyables.
De donner à chacun la possibilité de mieux comprendre comment fonctionne son corps. Bref, on va revenir avec vous, Caroline, dans un instant, mais tout de suite, je vous propose la devinette. Quel est l'animal qui symbolise le mieux l'amour durable ? Alors, si vous avez une petite idée, Jean Pélissier, vous pourrez me la donner après les infos. Alors, quel est l'animal qui symbolise le mieux l'amour durable ? Voilà, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ont deviné. Et puis, de toute façon, vous aurez la réponse tout de suite après les infos.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous allons continuer à vous donner des pistes pour vous sentir bien en forme pour ces vacances qui arrivent. Justement, c'est peut-être le moyen aussi, Jean Pélissier, de profiter des vacances pour faire un petit rappel à soi.
Tout à fait, mais il y a aussi peut-être un écueil là-dessus, parce que trop souvent, les gens attendent les périodes justement des vacances, des grandes vacances, des vacances des enfants, pour pratiquer des sports, etc. Alors qu'au quotidien, c'est tous les jours. C'est ça qui est très important.
Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup de gens.
Oui. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, je me suis amusé à mettre bout à bout toutes les pratiques que l'on pouvait mettre au travers de la lecture de ce livre. Même, ça concerne aussi la diététique, etc. Mais bout à bout, c'est qu'une heure par jour, alors qu'on vit 24 heures dans une journée en comptant les 8 heures de sommeil. Donc... C'est un faux alibi.
Une heure, c'est quand même beaucoup, même si chacun passait une demi-heure ou 20 minutes.
Le matin, quand je me lève, je fais 10 minutes de Qigong. C'est bouger son corps, de quelque façon que ce soit. Après, quand vous arrivez au repas de midi, vous faites le concept de l'assiette unique, pas d'entrée, pas de sortie. Du coup, vous ne fatiguez pas votre corps et puis votre repas dure 10 minutes, un quart d'heure. Après, ce que j'enseigne dans ce livre, obligatoirement à chaque repas pour pouvoir bien digérer le bol alimentaire, on doit faire 10 minutes de relaxation, pas de sieste, pas de trucs comme ça. 10 minutes de relaxation bien menée, et avec 10 minutes de relaxation, ça équivaut à 3 heures de sommeil, et du coup, vous êtes capable non seulement de digérer le bol alimentaire, mais en même temps et aussi, vous êtes capable de digérer les informations que vous allez recevoir ou émettre au travers de votre travail. Mais c'est pas tout, parce que, en plus, après dans la journée, ce qu'on va apprendre aux gens, c'est à respirer tout simplement en pleine conscience. Et c'est toutes ces choses-là que l'on met dans son trajet de vie, dans une journée, qui font que on reste en bonne santé tout le temps.
Voilà. Absolument. Alors, vous avez eu 10 minutes là, pour trouver ma réponse. Quel est l'animal qui symbolise l'amour durable, Jean Pélissier ?
Compliqué. Moi, j'aurais dit, parce que je les adore, et j'en ai eu 15 de ces naissances-là, les tortues. Pourquoi pas ?
D'accord. Pourquoi ? Parce que ça vit 100 ans.
Ça vit 100 ans et, ceci dit, la tortue, ça y va sec au niveau de la sexualité, ça couine et puis c'est répétitif.
Non, c'est tout simplement le chaud lapin, parce que on aime l'orable dans le lapin.
Oh !
Caroline est toujours avec nous. Bonjour Caroline. Oui. Rebonjour Caroline.
Oui, pardon. Rebonjour.
Donc vous travaillez maintenant avec vos patients pour les aider à être en prévention par rapport à leur santé, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors ça peut être par la relaxation, par la perte de poids. Alors moi c'est une technique.
Ça c'est intéressant évidemment. Oui. Combien de gens sont en effet en surpoids ?
Oui. Oui, et justement, c'est par des... Et souvent, il y a beaucoup de souffrance aussi derrière, enfin voilà. Donc, c'est à la fois par la parole, par le coaching, et aussi par des mesures diététiques, et puis aussi l'activation des points réflexes. pour rééquilibrer l'ensemble de l'organisme. Et les personnes donc peuvent perdre du poids et se sentent mieux physiquement et moralement, quoi. Et aussi, c'est une prévention, en effet, pour les maladies cardiovasculaires, le cancer, enfin, plein de choses. Hein.
Mais déjà, à mon avis, la première chose qui leur fait du bien, c'est qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui les écoute, qui essaye de comprendre où ils en sont dans leur vie et pourquoi ils en sont là.
Hein. Oui. Oui,
en effet. Et qui les aide, tout à fait, vous avez raison.
Oui, bien sûr. Dans la relation d'aide, c'est démontré que c'est pas forcément la technique est importante aussi, mais ce qui est très important aussi, c'est la relation interpersonnelle, quoi. Ça, c'est évident. En effet, si on est à leur écoute.
Parce que Jean Pélissier, vous êtes d'accord, chez beaucoup de personnes, on va manger un peu trop parce qu'on n'est pas bien, on va pas dormir, parce qu'on a des soucis.
Des compensations, etc. Tiens, je voudrais revenir sur un élément essentiel que j'ai écrit dans les livres, qui va un peu à contre-courant de ce que l'on dit dans la diététique occidentale. Et je peux vous assurer que toutes les diététiques traditionnelles, que ce soit le Touareg dans le désert ou en Inde ou en Afrique ou chez les Asiatiques, cette règle est très très importante. C'est qu'un individu normalement constitué ne devrait pas boire plus que 1 litre de liquide, tout compris dans la journée, à condition de boire en petite quantité fractionnée. Jamais un gros bol d'un seul coup, donc pas se faire piéger le matin au petit-déj en prenant 1 ou 2 mugs comme cela où ils ont déjà 1 demi-litre de pris. Parce que avec notre alimentation, nous avons aussi déjà 1 litre de liquide pris dans l'alimentation.
Oui, dans les fruits et légumes.
Et quand on a compris cela, la plupart des prises de poids sont liées à cet excédent de liquide au quotidien. Mais attention, là, je vous dis quelque chose, on ne change jamais ses habitudes du jour au lendemain. Quand on a bien compris la chose, quand on a bien compris, d'abord il faut le comprendre, il faut bien lire. Et quand on a bien compris, il faut mettre facilement 1 ou 2 mois pour trouver de nouveaux équilibres hydriques. Mais quand on arrive à cela, vous ne pouvez même pas vous imaginer la régulation de poids que l'on peut obtenir chez les gens. Et c'est ce qu'on assiste énormément là-dessus en médecine chinoise. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les médecines africaines, chinoises, etc. ont inventé des petits verres. Et on boit en toute petite quantité fractionnée tout au long de la journée, tiède ou chaud, etc. etc. Et ce pan de la diététique est trop, trop souvent oublié en Occident, ou même à la limite on dit l'inverse, c'est le contraire. Oui.
Oui, on attend. Enfin, moi, ça y a longtemps que j'ai compris ça, mais c'est vrai qu'on entend souvent qu'il faut boire beaucoup, qu'il faut s'hydrater, etc. Alors qu'en effet, surtout qu'en plus, en hiver, on ne transpire pas tellement, donc on n'a pas énormément.
On devrait bannir la bouteille d'eau sur la table. Je vous assure.
En mangeant, c'est pas nécessaire.
Quand vous avez mastiqué normalement un bol alimentaire, vous avez déjà 1 demi-litre de salive dans l'estomac. Ça ne sert à rien de diluer tout cela.
Caroline, vous voulez conclure peut-être ?
Non, je dirais que la marche aussi, une chose très simple, peut être aussi importante pour vous parler, pour vivre longtemps.
Oui, en région parisienne, en ce moment, ça marche.
Je suis à Bordeaux, mais même quand je l'ai vu pour ma maman, par exemple, qui est âgée et qui l'a fait pendant très longtemps, et ça aide pour plein de choses. Quoi.
Absolument.
Le corps a besoin de bouger. Hein. De toute façon, tout organe qui ne fonctionne pas s'atrophie. Hein. C'est évident que la marche, enfin en tout cas.
Oui, dans le livre, j'explique que la marche est le plus grand des antidépresseurs qui puisse exister. On l'explique avec des choses bien concrètes en médecine chinoise. Ne serait-ce que parce que ça élimine toutes les stagnations de sang et d'énergie, et quand ça circule, comme dit l'autre, il n'y a plus rien à voir.
Puis je pense en plus que pour le pied, le fait que la voûte plantaire fonctionne,
c'est
bien.
Mais juste à l'interstice du pied, du coup de pied, il y a un point qui s'appelle le 42 estomac en médecine chinoise. Quand on le masse, ça favorise la digestion du bol alimentaire. Voilà pourquoi il faut marcher après avoir fait un grand repas.
Et prendre son pied. Merci Jean Pélissier, merci Caroline. On se retrouve dans un instant et je crois que notre monsieur Prévention nous propose une lettre au Père Noël. J'ai hâte de l'entendre.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant. Sexy News.
Alors Jean Pélissier, vous l'avez remarqué, on est à une semaine de Noël et monsieur Prévention, je crois que vous avez déjà écrit votre lettre au Père Noël. Hein.
Non, pas exactement. Bonjour.
Bonjour.
Non. C'est le Père Noël qui est un de mes amis, qui m'a transmis un courrier qu'il avait reçu.
Très bien.
Et si vous l'acceptez, je vais me permettre de lire la lettre qu'il a reçue.
J'ai hâte de lire la lettre du Père Noël.
Voilà ce qu'a reçu, donc, d'un monsieur qui s'appelle Sébastien. « Très cher petit Papa Noël, je sais, je n'ai pas toujours été bien sage. En effet, je ne me suis pas toujours protégé lors de mes ébats amoureux. »
C'est pas bien.
« Pour être plus clair, Père Noël, je n'ai pas toujours utilisé de préservatif en rentrant mon Jésus dans la crèche. » Mais vous savez sûrement ce que c'est lorsque vous honorez la Mère Noël ou l'un de vos reines.
Ah, ça, on ne cherchera pas trop à savoir de quoi ça part.
Il m'a l'air bien renseigné, ce Sébastien, mais bon. Vous ne disposez pas toujours du chapeau protecteur de votre appendice barbu. C'est pourquoi, cette année, mon petit Père Noël adoré, je souhaiterais, comme unique cadeau, un autotest du dépistage du VIH-SIDA. Pour 2020, je te promets de faire des efforts pour ne pas offrir en cadeau à mes partenaires sexuels les bébêtes qui m'auraient colonisé, et bien sûr de me faire soigner si j'étais séropositif. Merci d'avance, Papa Noël, et bonne distribution, malgré les grèves. Bisous partout, signé Sébastien.
Le Père Noël, il se déplace de toi en toi. Donc,
je pense qu'il n'est pas trop concerné par les grèves.
Non, je pense pas.
Donc, cher Sébastien... en fait, ça peut paraître incongru que notre ami Sébastien demande au Père Noël un test du sida, mais c'est une très bonne idée.
C'est une belle idée.
Mais oui, parce qu'à une époque, quelqu'un qui découvrait sa séropositivité, c'était une information catastrophique, dramatique, assimilée à la maladie, voire à la mort. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui se découvre porteur du virus VIH va avoir accès gratuitement au traitement qui lui permettra de ne pas être malade.
Oui, c'est plus la maladie qui emmène directement à la mort.
C'est quelque chose, s'il est traité, qui te permet de vivre normalement une vie normale, complètement, sans que l'infection ne se déclare.
Exactement.
Encore faut-il le savoir.
Mais mieux vaut le savoir d'ailleurs, parce que plus vite on est traité, mieux c'est.
Bien sûr. Donc c'est vraiment une bonne idée de cadeau que Sébastien a. Je pense que le Père Noël va se faire un plaisir de... Alors évidemment, le Père Noël, c'est pas un confessionnal pour autant. Parce qu'il raconte un peu sa vie intime, y compris celle du Père Noël, ce qui ne nous regarde pas. On est d'accord.
On est bien d'accord.
Bon. Mais bon, c'est vrai que dès qu'on a un doute, et visiblement Sébastien a des
doutes...
Enfin,
moi, vous venez de me casser quand même un truc dramatique. Ouais, moi, j'ai toujours été persuadée que le Père Noël, il n'avait pas de vie sexuelle.
Eh bien, écoutez, vous pouvez continuer à le croire. Mmh. Pas de souci.
Ah, je me sens mieux.
En tout cas, on est dans les bonnes résolutions. Sébastien a une très bonne résolution, c'est de se faire dépister. Il demande au Père Noël de l'aider. Bon, moi, j'aurais plutôt conseillé à Sébastien d'aller dans un Cégide.
Ça serait peut-être plus efficace. Mais enfin, là, à une semaine de Noël, c'est pas bête de demander au Père Noël.
Parce que bon, les Cégides, on peut les appeler centres de santé sexuelle maintenant. Hein.
Cela dit, monsieur Prévention, lui, au moins, il sait qu'on peut avoir des tests de dépistage en pharmacie. Je ne suis pas sûre que tous les auditeurs qui nous écoutent le savent.
Non, mais c'est
vous
clair.
Vous le saviez, Jean Pélissier ?
Non.
Pour 20 à 30 euros. Et puis attendez, parce que dans les nouveautés, il y a un nouveau test qui en pharmacie. Il n'y en avait qu'un modèle jusqu'alors.
Ouais.
Voilà, il y a un nouveau test qui vient de sortir. Pareil, dans toutes les pharmacies, entre 20 et maximum 30 euros, n'importe qui en effet peut s'acheter un test. Alors, moi, je parle du centre de dépistage parce que c'est ce qu'on appelle les centres de santé sexuelle, dans le sens où c'est très large. On peut aborder toutes les infections sexuellement transmissibles. On peut discuter avec un professionnel, évaluer ses prises de risque, découvrir certains modèles de préservatifs intéressants ou pourquoi est-ce qu'on se protège pas. Profiter pour certaines personnes de la PrEP. Vous savez, les gens qui ne peuvent pas se protéger et mettre des préservatifs, qui prennent des risques, peuvent bénéficier d'un médicament qui évite une contamination. Ça peut se découvrir dans le cadre du centre CCJ, dans l'occurrence, il ne faut pas hésiter. On a vu qu'il y a des associations aussi qui font du dépistage sur une goutte de sang. C'est pas mal parce qu'on, là encore, on a un interlocuteur ou une interlocutrice pour aborder les questions. Après, l'autotest, pour ceux ou celles qui
alors,
ne veulent pas...
Alors, l'autotest, on peut l'avoir sans ordonnance.
Voilà, c'est ça qui est important. C'est tout à fait sans ordonnance.
C'est un peu cher, quoi. C'est ce qu'on pourrait reprocher.
Oui, après, il y a certaines associations qui peuvent en procurer gratuitement aux gens qui n'ont pas les moyens. On le fait tout seul, on l'a compris. C'est sur une simple goutte de sang. On a un résultat environ dans les 15 minutes. Et donc, pas besoin d'ordonnance, en effet.
Et c'est très, très fiable.
Le taux de fiabilité est impressionnant. On est dans les 99, et quelques pourcents. Quoi. Après, on confirmera toujours par une prise de sang.
Bien sûr. Hein? Enfin, ça permet d'avoir déjà une première information très sûre.
Oui, sachant qu'il faut quand même bien comprendre que si on se découvre porteur du virus, un, on confirme par la prise de sang, et deux, on bénéficiera d'un traitement qui permettra de ne pas être malade. C'est pour ça qu'on se permet de le mettre en vente libre comme ça. C'est parce que ça permet en effet une prise en charge qui évite la maladie.
C'est plus la catastrophe de découvrir qu'on est séropositif comme ça l'était il y a 30 ans.
Non, et si les gens prennent les traitements correctement, ils ne sont pas malades et ils ne transmettent pas non plus. Et ça, c'est pas bien clair encore pour beaucoup de gens. En tout cas, vraiment, ça peut être pourquoi pas une idée de cadeau.
Mais je me souviens, d'ailleurs, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Hein, et chaque année, donc, ils font un peu une sorte de test. Et c'était effrayant de voir la méconnaissance aujourd'hui par rapport à cette maladie.
Ouais, déjà, la transmission, là, il y a une régression totale.
C'est fou.
Les gens étaient bien mieux informés il y a 10 ans, parce qu'on en parlait plus peut-être qu'aujourd'hui. Et puis on voit tout un tas d'IST qui repartent. Le VIH continue, bien sûr, mais on a tout un tas de gonocoxies, de la syphilis et autres qui repartent parce que les gens ne se protègent plus, ou beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins qu'il y a 10 ou 15 ans.
Bien sûr. Et peut-être qu'il y a aussi de plus en plus de partenaires, semble-t-il, avec les sites de rencontres.
C'est plus facile.
Et plus on a de partenaires, plus il y a de risques, évidemment, d'être...
Statistiquement. Après, si on se protège, pourquoi pas. On peut avoir un risque avec un ou une seule partenaire. Et puis, on peut aussi avoir beaucoup de partenaires si on se protège.
C'est sûr, oui.
En tout cas,
jusqu'à nouvel ordre, à part le préservatif, il n'y a rien d'autre qui protège des IST.
Mais le test, c'est aussi une forme de prévention, puisque ça permet de faire le point. Et c'est une très bonne idée. Donc, le Père Noël va se faire un plaisir d'offrir à Sébastien, son autotest.
Ah oui, il a déjà fait petit paquet cadeau.
Tout est prêt. Et puis après, bon, s'il y a d'autres idées cadeaux, ça peut être, on avait parlé de gel lubrifiant. Vous savez, ces gels lubrifiants, gels de massage érotique, qui sont comestibles à la banane, à la fraise ou au champagne. Ça, c'est une bonne idée de cadeau aussi pour Noël.
Pourquoi pas?
Les sex toys pour certains connectés, pour les gens qui sont branchés, etc. aussi, que quand on est tout seul et quand on ne veut pas prendre de risque d'attraper une IST. Parce que si un sex toys est partagé, par contre, il faut le nettoyer et puis un petit risque. Mais tout seul, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que pourquoi pas, y compris à Noël, offrir des cadeaux qui vont permettre un plaisir sexuel que de toutes les façons, le Père Noël aura testé avant, ça c'est sûr.
Bon, eh ben, envoyez votre lettre au Père Noël, il est encore temps. et peut-être que vous allez recevoir dans la cheminée des préservatifs.
J'ai une 30 secondes encore.
Mais vous avez tout votre temps.
L'actualité, quand même, c'est la Haute Autorité de Santé et puis le Conseil National du Sida qui ont recommandé à la ministre de la Santé. Donc, la vaccination, vous savez, on avait parlé une fois de la vaccination contre le HPV. Le HPV, c'est donc le papillomavirus humain qui peut entraîner certains cancers du col de l'utérus. Et donc, ça date d'hier ou d'avant-hier, officiellement, c'est vrai. On recommande, pas seulement aux jeunes filles, jusqu'alors entre 11 et 14 ans, mais aussi aux jeunes garçons, et à tous les jeunes garçons entre 11 et 14 ans, voire jusqu'à 26 ans pour ceux qui ont des pratiques de type homosexuel, donc de réclamer, de bénéficier de cette vaccination contre le papillomavirus.
Alors ça, c'est important, moi je suis d'accord, pour revenir sur ce vaccin, parce que récemment encore, la semaine dernière, j'ai reçu, on m'a envoyé des mails de médecins qui sont contre le vaccin. Je voudrais rappeler que le papillomavirus est responsable de plus de 5000 cancers par an. Mm-hmm. Donc c'est quand même important de vacciner les jeunes filles et les jeunes garçons.
D'accord. Parce qu'en même temps, protéger les jeunes filles, c'est aussi passer par une vaccination des garçons.
Mais bien sûr.
Ça va de pair. Alors s'ils ont des pratiques homosexuelles, c'est encore
et
plus
on est
justifié.
Très en retard en France sur ce vaccin.
Par rapport à d'autres pays.
Il y a d'autres pays où ça y est, c'est rentré vraiment dans la culture aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il y a cette mode anti-vaccin et notamment contre ce vaccin de contre le papillomavirus.
Après, on peut refuser les vaccins pour soi, mais quand même les proposer à sa progéniture. Parce qu'on, vous voyez, vous comprenez le principe. Mm-hmm. À ses enfants en particulier qui peut-être méritent cette protection.
Voilà, il faut rappeler que les vaccins ont quand même éradiqué des grandes maladies depuis quelques siècles. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on serait contre certains vaccins. Bon, après, peut-être qu'il faut pas vacciner les très jeunes enfants avec 5-6 vaccins en même temps. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce vaccin du papillomavirus, franchement, pensez-y si vous avez une jeune fille ou un jeune garçon. Monsieur Prévention, restez avec nous parce que dans un instant, on va recevoir Edith Arebourg qui va nous parler de ce kit d'éducation sexuelle dédié aux ados et vous me direz ce que vous en pensez. Restez avec nous.
14h, 16h, Brigitte Lahaye. Sud Radio.
Alors bien sûr, Jean Pélissier, vous pouvez réagir puisque vous êtes là et on va continuer avec Monsieur Prévention pour accueillir Edith Arebourg. Bonjour, Edith.
Bonjour.
Alors, on a sous les yeux ce kit LOLS. Hein, et donc, c'est trois pochettes. Une, il est marqué « lui », une autre, c'est marqué « elle ». Et une troisième, il est marqué « nous ». Et alors, dans cette pochette, dans ces pochettes, il y a des choses tout à fait intéressantes, n'est-ce pas, Monsieur Prévention ?
Tout à fait. Des outils qui sont tout à fait intéressants, si j'ai bien compris, pour faciliter la communication entre des parents ou des proches et des préadolescents ou adolescents avant même les premières activités sexuelles, c'est ça ?
Tout à fait. C'est exactement ça. Vous avez tout dit.
En tout cas, c'est vraiment un outil intéressant. Nous, on souhaiterait qu'il y ait un maximum d'outils comme ça qui permettent à ceux et celles qui sont prêts à créer du lien avec les jeunes, pour les rassurer, pour les informer, à parler d'un sujet qui reste tabou. Et c'est vrai que ces outils-là que j'ai découverts permettent et facilitent bien sûr les échanges avec les plus jeunes. Et je crois que ce sont vos propres enfants qui vous ont inspiré ?
Tout à fait. J'ai trois enfants. Donc, le premier, j'en parle pas parce qu'il a déjà passé ce cap. Mais c'est pour le deuxième, donc il a à peu près 17 ans et demi, et puis la petite dernière, c'est à 15 ans et demi. Donc vraiment dans l'âge à avoir leur premier rapport.
Alors on a feuilleté les deux petits magazines, donc lui et elle. C'est clair, c'est simple, c'est compréhensible. Donc c'est plutôt bien, non, Monsieur Prévention ?
Ah, c'est pas culpabilisant. Il y a du tutoiement, il y a pas de tabou. On parle comme il le faut de masturbation. On parle d'hygiène aussi, ce qui est important. L'hygiène, la découverte du corps et la puberté. Et puis tel que c'est fait, même quand ça s'appelle lui, ça s'adresse aussi aux garçons pour qu'ils découvrent les filles. Et pareil que les filles découvrent les garçons, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisse la première fois sur le contact et le rapport de l'autre. Oui, il y a des petites lingettes aussi à l'intérieur. Je me suis demandé, quelle est la différence entre les lingettes pour filles et pour garçons ? Est-ce que ce sont les mêmes ou pas ? Parce que les pochettes sont différenciées, mais est-ce que le contenu ne serait pas le même par hasard ?
Il faut regarder, moi j'ai ouvert la lingette femme.
Les contenus sont les mêmes, parce que c'est vraiment pour l'hygiène intime. C'est vrai que c'est le packaging extérieur qui est différent, mais c'est pareil. Donc c'est vegan et c'est 100% bio, donc aucun risque d'irritation.
Ça sent pas bon.
Mais c'est pas comestible, c'est vegan et bio, mais c'est pas comestible
quand
même.
Et quelle chance que ça sente pas bon, parce que si ça sentait, ça veut dire qu'il y a des produits nocifs.
D'accord.
Donc non, normalement ça ne devrait même pas avoir d'odeur.
Mais ça, vous êtes d'accord que ça sent quand même quelque chose ? Pourquoi ça sent quelque chose alors ?
Non, c'est pas que ça sent pas bon, c'est quand vous avez en fin de compte une odeur qui est neutre. On a l'impression que ça sent pas bon parce qu'on a toujours ce sentiment avec les produits qu'ils mettent sur le marché. Il faut que ça sente quelque chose. Il faut que ça sente bon.
Bon, moi je trouve que ça sent pas bon, mais bon après, moi je suis pas.
Je suis désolée.
Non, mais attendez, moi je suis pas.
Les goûts et les odeurs et les couleurs, ça c'est chacun. Moi je trouve pas ça désagréable du tout à l'odeur, pas de problème.
Bon. Et alors ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a un petit comment ça s'appelle ça, un petit truc qui tourne là.
Une réglette
avec les nombres de jours.
Oui, c'est ça.
Et ça c'est sympa.
Un calendrier de cycle circulaire, tout à fait.
Pour que les jeunes filles apprennent à mieux comprendre justement leur cycle.
C'est une réelle innovation. Je l'ai créé pendant. Il m'a fallu pratiquement 2 ans. Parce que j'ai un premier kit aussi qui a été destiné aux jeunes filles. Hein, et effectivement, je l'ai adapté pour le cycle des adolescentes.
Mm-hmm. Non, mais franchement, c'est bien. C'est ludique. Et puis, il y a évidemment trois préservatifs, j'imagine, dans la petite boîte que je n'ai pas encore ouverte.
Mm-hmm. Dont le nous, tout à fait. Parce que vous avez 3 kits en un. Donc, il y a le lui, le elle et dont le nous. Donc j'ai souhaité mettre de la protection pour eux deux. Pour pas qu'il y ait de différence, faut pas que ce soit simplement le garçon qui ait des protections, faut que la fille aussi sache que la protection c'est pour les deux.
Alors Edita Rebourg, on trouve ça où ce kit d'éducation sexuelle dédié aux ados ?
Alors déjà sur notre site internet, donc lols.fr, mais aussi dans 14 000 pharmacies en France.
Ah, bravo.
Oui, tout à fait. On a déjà distribué notre premier kit, donc dans les pharmacies, puis là, Lols prend la relève.
D'accord. Et alors, c'est quoi le prix ?
Alors, on est à 29,90 €.
Bah, ça reste abordable avec tout ce qu'il y a dans
Ah oui, avec tous les outils. Parce que ça aborde le corps la première fois, ça aborde aussi les violences sexuelles, le harcèlement, tout ça c'est traité.
Ça répond à toutes les questions sur le sexe, l'amour, le corps, celui de l'autre, prévention.
Les IST. Enfin,
on parle de tout, on parle absolument de tout, c'est vraiment un outil pédagogique d'accompagnement.
Une petite critique, je crois.
Dans une prochaine édition, il y a 2-3 petites choses qui pourraient être ajoutées encore. Oui. Pour rendre plus complet, déjà la lubrification, c'est vrai que les jeunes filles souvent ont du stress lors du premier rapport qui peuvent entraîner des sécheresses vaginales et on conseille nous souvent un lubrifiant parfumé qui permet de faire des gels de massage et
attention, c'est pas vegan là.
Ça peut aider, si, il y a des lubrifiants vegan, je vous promets. Hein. Mmh. Donc ça peut faciliter, décontracter un bon lubrifiant pour des massages pour une première fois, ça peut être un plus au préservatif.
Préliminaires plus longs, donc autant que ce soit le garçon et la fille au tout début, lubrification vaginale naturelle, je pense qu'il n'y a rien de mieux.
Mais on a quelques jeunes filles qui ont du stress et si elles sont très stressées pour la première fois...
Il y a quelques jeunes hommes très très pressé.
Ça peut arriver aussi. Et puis l'autre chose qui pourrait être ajoutée dans une prochaine édition, c'est que ce soit plus inclusif, qu'il puisse y avoir la situation de jeunes qui ont des pulsions, des désirs homosexuels. Parce qu'ils sont très perturbés, les pré-ados ou ados qui ont des pulsions de ce type. Ils ne se sentent pas normaux, certains vont jusqu'au suicide. Et j'aurais bien aimé que quelque part, hein, ce soit abordé en les rassurant sur cette situation et que ce n'est pas grave. Et on peut
vous,
comme ça.
Vous l'avez dans le guide Nous, hein, et même sur le site internet.
Alors
les sujets sont abordés.
On n'a pas regardé le guide Nous.
On n'a pas le guide Nous, là. On a le L et lui.
Désolé.
Par contre, ce lit à deux, et puis là, vous auriez effectivement toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Là, c'est vrai que dans le Nous, tout est bien stipulé.
D'accord. D'accord. Eh ben, bravo, Edith Arebourg. C'est
bonne
une
initiative.
Belle initiative.
Bon outil.
Merci à vous. Merci infiniment. Merci de parler de ce kit parce que je ne pensais pas que la sexualité était un sujet autant tabou, malgré tout.
Eh ben, je peux même vous dire, Edita, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur le sujet. On est en train de faire un petit peu marche arrière, je trouve, depuis quelques temps. Et c'est bien dommage. Mais heureusement qu'on est nombreux quand même à continuer à donner des informations. Ça s'appelle LOLS, L2OLS, mais bien sûr, vous retrouvez aussi toutes ces infos sur notre site. Merci beaucoup, Edita Herbourg, et merci, Monsieur Prévention.
De rien.
Merci à vous.
Au revoir. Alors, on va continuer. Jean Pellissier, on a parlé tout à l'heure de la voix, et c'était très intéressant, et on va peut-être vous demander votre avis, Jean Abitbol, puisque vous revenez nous parler de ce magnifique livre, La belle histoire de la voix, parce que je trouve que c'est vraiment un magnifique cadeau à offrir, par exemple, pour Noël. Je trouve que le livre, c'est encore un cadeau assez, oui, j'allais dire, assez général, parce que ça fait toujours plaisir, hein, beau livre. Alors ce livre, il est passionnant parce que vous abordez la voix sous plein d'angles différents. Et tout à l'heure, on parlait avec Jean Pellissier qui travaille dans la médecine chinoise, que quand on était fatigué, notre voix, ça s'entendait.
Oui, dire que lorsqu'on est fatigué, le rythme des mots va diminuer de 7 à 3 au niveau du rythme vocal, d'une part. La puissance de la voix va baisser, on va plus parler sur le souffle, et puis surtout, on va avoir une voix qui va descendre comme ça, qui va s'éteindre doucement. Et la fin de la phrase, paradoxalement, s'éteint dans une voix énergique, avec beaucoup d'énergie, on le voit en ce moment d'ailleurs, c'est qu'il y a une voix qui va terminer sur des, presque, en assurant, presque sur des consonnes. Et donc c'est la grande différence effectivement, et au téléphone on sait très bien si quelqu'un va être dépressif ou pas, et on l'écoute et on l'entend tout de suite, bien sûr.
Bien sûr. Alors c'est quoi une belle voix finalement, Jean Abitbol?
Une belle voix, c'est tout simplement une voix dans laquelle on est bien dans sa peau comme on est bien dans sa voix. Une belle voix, c'est d'abord par rapport à soi et non pas par rapport à ce que les autres veulent que vous soyez. Et la preuve en est, c'est que le narcissisme de la voix n'existe pas. Et quand des gens commencent à s'écouter parler, c'est dramatique parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont que le reflet de ce qu'ils aimeraient être. La preuve en est Écho, et on en parle en livre, qui s'en met à parler, à répéter des phrases, c'est répéter ce qu'est l'autre. Et la sincérité d'une voix, c'est quoi? C'est finalement une voix, on ne peut pas la maquiller. Le maquillage n'existe pas. Lorsqu'on maquille une voix, on devient artificiel, on n'est plus soi-même. Et c'est là où, finalement, démaquiller une voix, c'est trouver la sincérité derrière. Et là, il va y avoir une dualité. Donc, une belle voix, c'est une voix qui vous plaît à vous-même. Et les autres, si elle vous plaît, elle va leur plaire parce que vous allez être sincère. Mmh. Et être, à ce moment-là, cette espèce de dissonance entre sa personnalité et sa voix, il y a un problème qui est peut-être réel. C'est physiquement, on fait 1m90, on se met à parler comme ça, ça ne va pas coller. Puisque là, on est en disharmonie. Mais si effectivement la voix est en harmonie, Michel Simon, est-ce que c'est une belle voix? Bien sûr. il allait parfaitement bien avec cette personnalité.
Avec son physique. En tout cas, vous, vous avez une voix passionnée, Jean Abidal.
passionnante.
Passionnant. Il est passionnant, mais il a une voix passionnée, parce que justement, vous êtes passionné par votre métier.
Et dans ce livre, c'est une flânerie à travers, depuis les pyramides de Khéops, en passant bien évidemment par l'évangile, selon saint Jean, en allant jusque Pavarotti, Caruso. Et on continue ce voyage avec Johnny Hallyday, on continue ce voyage avec Céline Dion, on continue ce voyage avec Aznavour.
Je voulais vous poser cette question que je ne vous ai pas posée la dernière fois que vous êtes venu. Pour vous, la voix que vous préférez dans tous ces gens dont vous parlez de la voix de Frank Sinatra, Johnny Hallyday, etc. Mais ce serait quoi votre voix préférée?
Pour moi, c'est la voix des crooners. C'est la voix des crooners, c'est la voix de Frank Sinatra, c'est la voix de Ray Charles. Ça, c'est une catégorie de voix. Puis vous avez une catégorie de voix, là, on fait appeler à Barbara Streisand, que je trouve exceptionnelle, dont la voix est très belle, et elle vous emporte. Pour moi, une belle voix, pour revenir à ce que vous me demandez quelques instants, c'est une voix qui va vous transporter dans un imaginaire auquel vous ne connaissez pas. Et ce transport dans l'imaginaire, dans cette flânerie qu'on va faire dans ce livre, eh bien, quelque part, la conclusion, c'est cela. C'est finalement cette voix qui vous amène. Est-ce qu'on a le droit de rêver? Est-ce que le rêve fait partie de la voix? Bien sûr que oui. Et l'oralité, qui commençait il y a 3, 4 000, 5 000, 10 000 années, qui n'existe que dans la spiritualité, eh bien oui, aujourd'hui, à un moment donné, eh bien on retrouve cette oralité, cette beauté vocale qui vous permet également, et la radio pour moi est bien au-dessus de l'image, parce que la radio va vous permettre d'écouter quelqu'un, de l'imaginer et de vous laisser à vos émotions et de ne pas vous imposer par un regard ou par autre chose.
Vous vouliez réagir, Jean?
Oui, non, pas réagir, mais juste, qu'est-ce que vous pensez de la voix des chanteurs lyriques? Est-ce que c'est une voix surfaite? Est-ce que c'est une voix transformée? Qu'on pense du chant lyrique, par exemple, le
chanteur de variété, en soi, est un chanteur lyrique, mais pas dans la même catégorie. Comme si vous demandiez celui qui fait 100 mètres au 100 mètres et puis celui qui fait le marathon. Le chanteur de variété, c'est un athlète du 100 mètres. Il s'arrête toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, toutes les 5 minutes. Le chanteur lyrique, c'est un marathonien. Mais quelle beauté! La Tosca à la Scala de Milan, là, pour Sant'Ambrogio, le 7 décembre, c'était exceptionnel. Le chanteur lyrique va vous emporter, mais il vous met dans un navire où vous traversez l'océan. Vous n'arrêtez pas. C'est-à-dire, vous partez d'une rive à l'autre, et en arrivant sur l'autre rive, vous êtes dans un autre imaginaire. Le chanteur de variété est différent. Lui va vous transporter chanson par chanson. Il va marquer votre adolescence, car c'est lui que vous entendez à la radio le plus souvent. Et ce souvenir, quand vous avez 45, 50, 50 ans, c'est pas un hasard. Si dans les années aujourd'hui, on écoute les années 90, parce que on a une décharge d'ocytocine qui nous font penser à notre enfance. Alors, la différence entre l'un et l'autre, sur le plan athlétique, il y en a certes, sur le plan souffle, il y en a, mais sur le plan émotion, la voix chantée fait partie de la raison, puisqu'il y a des paroles, mais de l'émotion, votre cerveau droit, qui vous laisse rêver.
Allez-y, oui. Jean.
Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que, évidemment, la voix en médecine chinoise, c'est un élément essentiel du diagnostic en médecine chinoise. On entend quelqu'un, on va tout de suite, effectivement, voir s'il y a des déséquilibres dans certaines régions du corps, de l'organisme, etc. Mais aussi, la quantité de voix. Quelqu'un qui parle tout le temps, qui parle trop, est en excès de yang. Quelqu'un qui ne parle pas du tout est un dépressif. Mais il faut trouver la voix du juste milieu. Et c'est ce que... Voilà, c'est ce qu'on...
Alors, ça, c'est fabuleux. Parce que le yin et le yang, c'est l'immanence et la transcendance de la voix.
Tout à fait.
L'inspiration n'existe finalement que pour pouvoir expirer. Notre dernier souffle, c'est l'expiration. Et l'inspiration est le premier souffle à l'envers. Et la voix est la jonction entre les deux. Elle est que dans un présent. Pourtant, elle a commencé à exister dans le passé. Elle vous prépare au futur. C'est la pierre absolument incroyable de la force de l'homme qu'elle est là, que dans le présent, et pourtant elle prépare ce qui va vous arriver demain. Et quand on parle de la médecine chinoise, il faut savoir qu'en chinois, un mot existe dans la musicalité. Il peut être dire la même chose et son contraire. Et la même chose et son contraire en fonction des quarts de ton, des huitièmes de ton, c'est absolument fabuleux, car il joue avec la musique non-stop. Et la calligraphie chinoise est une voix écrite dans la musique.
Bah, magnifique. Et, moi, j'aime aussi à dire que la voix... On va émettre plein d'émotions et d'idées au travers de la voix. C'est de la philosophie. Et entre deux paroles et à un instant de silence, c'est la métaphysique. C'est-à-dire, c'est le vide.
J'irai plus loin. Non seulement je suis 1000% d'accord avec ça, 1000%. Mais le silence, justement, lui, va vous permettre de prendre en compte dans l'immanence, dans l'inspiration, dans ce moment de silence, et vous allez ressortir avec une nouvelle créativité. Et ce silence est la nourriture de votre créativité, et la nourriture du langage. Quand je vous parle, vous et moi, on discute, mais on va avoir une troisième idée, qui est l'idée extérieure, et c'est nous deux, lorsque l'on parle, qui crée une troisième idée. Cette troisième idée, vous et moi, on va l'accaparer, mais d'une façon différente, et ce verbe, cette voix, va, à la vôtre et la mienne, vont créer une troisième voix, entre guillemets, qui est la voix, justement, que on commence à comprendre dans ces mystères. Comment se fait-il que cette voix est tellement riche, même dans le silence ?
Alors, dans ce livre, La belle histoire de la voix, Jean Abitbol, vous évoquez énormément de choses, évidemment. Là, je voulais juste vous poser une question qui va évidemment intéresser tous ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa voix, justement, comme ça, au quotidien ?
Pour améliorer sa voix,
monde a envie d'avoir
bien
une
sûr.
Belle voix.
Premier point, pour améliorer sa voix, alors, je veux dire une chose qui va vous sembler un petit peu curieuse, mais il faut apprendre à chanter ou il faut chanter. Pour quelle raison ? La voix chantée est une voix libératrice. Améliorer sa voix, c'est libérer sa voix. C'est pouvoir, lorsque vous parlez avec l'autre, vous sentir libre d'elle-même. La liberté de la voix, c'est la seule qu'on ne peut pas comprimer, qu'on ne peut pas enfermer, même dans une cage, même à l'époque.
La chorale, par exemple, ça peut être une belle manière.
C'est extraordinaire. La chorale est un collectif, et dans ce collectif, vous recevez les émotions
des autres.
Exactement. Oui. Ça, c'est le premier point. Sur le plan maintenant, petit élément médicaux, si je puis dire, c'est les infusions au thym avec une cuillère à soupe de miel, par exemple, pour avoir une voix plus claire. Deuxième point, c'est des inhalations avec des plantes comme l'eucalyptus, comme le romarin. Troisième point, c'est savoir que votre voix a une limite. On a tous des limites. Et ne pas pousser ces limites, car vous allez la casser, vous allez casser... Ne pas crier
trop...
à froid. Vous pouvez crier, mais il faut savoir comment crier.
Bien sûr. En tout cas, c'est un magnifique livre.
Merci.
On en reparlera d'ailleurs la semaine prochaine dans l'émission du 24 décembre. Je vous ferai quelques propositions de livres si vous avez encore des petits cadeaux à faire. La belle histoire de la voix. Merci beaucoup, Jean Abitbol.
Merci
on
à
pourrait vous.
Vous
garder, vous écouter trois heures. Moi, je ne m'en lasse pas. D'ailleurs, je me suis tue. Merci. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Venez me faire écouter votre voix.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et on va revenir sur nos secrets de centenaire avec Jean Pélissier. C'est sorti aux éditions Albin Michel, je vous l'ai dit, hein, c'est plein de très très bons conseils. Alors il y a un conseil aussi que je trouve vraiment important, c'est le sourire. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Sourire, sourire, d'abord ça nous fait du bien. Et ça
va plus loin, on appelle ça en médecine chinoise le sourire du cœur, le cœur ouvert, l'amour. C'est toujours la même chose. Une émotion, quand elle est inexistante, eh bien, elle fait que le corps se désorganise complètement. Mais quand elle est en excès, par exemple un fou rire ou un excès de joie, détruit aussi l'organisme. Et on apprend...
De temps en temps, un fou rire, c'est quand même sympa.
Entre amis, effectivement, sans aucun problème. Mais par exemple, quand vous prenez le fou rire de l'adolescent ou le fou rire à contre-temps dans un enterrement ou quoi que ce soit, c'est déjà un signe pathologique. Par contre, on apprend dans les méthodes de prévention en médecine chinoise aux gens à sourire. Et ils se mettent devant une glace, il faut qu'ils génèrent ce sourire, pas le sourire narquois, pas le sourire un peu... Mais non, le vrai sourire, le sourire du Bouddha. Parce que ce sourire-là, ensuite, comme j'explique dans ce chapitre, on va pouvoir le tourner vers l'intérieur et sourire, pourquoi pas, à ses organes, c'est-à-dire libérer l'énergie, parce que le sourire appartient au cœur. Et quand le cœur fonctionne bien, toutes les énergies dans le corps circulent bien.
Et nous allons conclure avec Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Brigitte.
Bon, bah, vous m'avez l'air fatigué Eric.
Non, je suis en train de... je change de pièce pour parler tranquille. Et désolé, je n'ai pas
vous
écouté
réveillé,
le début de...
Vous avez réveillé peut-être Eric.
Non. Non, je suis en train de trouver un coin tranquille, hein, en fait, pour parler tranquillement.
Eh bien, allez-y, je vous en prie, prenez votre temps. Oui, je me permets de me moquer un tout petit peu de vous, Eric, parce que c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jean Pélissier hein, que la voix était assez...
La voix était importante.
Était importante et révélatrice. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression quand même... Vous êtes d'accord, Jean Pélissier?
Tout à fait, absolument.
On avait l'impression, Eric, qu'on venait de vous réveiller ou que vous étiez très fatigué.
J'étais branché sur l'ordinateur et puis j'ai une voix, oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, justement? Ah, il va falloir couper le haut-parleur.
Ça fait écho, là?
Oui.
Ça fait écho, alors attendez.
On est très, très nombreux, là. Bon. On va laisser Eric trouver un coin tranquille. Jean Pélissier, oui, c'est intéressant hein, de voir en effet comment la voix déjà nous donne une température.
J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le professeur Habitbol. Quand on parle de dualité yin-yang, c'est vrai que la voix ne peut être là que parce qu'il y a l'inspiration et l'expiration. Et c'est tout à fait vrai que la première inspiration, qui est un acte yin, d'intériorisation, eh bien, c'est le premier, ce qui va se produire au moment de notre sortie du ventre de notre mère, et au moment du passage, eh bien, il va y avoir la dernière expiration, qui est un acte yang, et entre les deux, on n'arrête pas de respirer. Et on respire comme ça, entre 14 et 17 000 fois en 24 heures, en respiration inconsciente. Et la médecine chinoise va vous expliquer qu'il est fondamental de détourner cette respiration inconsciente vers des respirations conscientes, tout simplement parce que ça nous fait rentrer 10 fois plus d'air et d'oxygène dans le corps, et c'est un des moyens essentiels pour booster notre batterie des reins. Je n'arrêterai pas de dire que votre corps, quand la batterie des reins est rechargée à bloc, c'est non seulement les défenses immunitaires qui sont augmentées, mais c'est l'immense pouvoir d'adaptation de l'organisme à quelques circonstances que ce soit, externes ou internes, et c'est l'immense pouvoir d'auto-guérison et d'auto-régulation de l'organisme. On a besoin de beaucoup d'éléments externes pour se guérir. Votre corps a tout en lui pour s'auto-gérer et s'auto-guérir.
Alors, moi je repense, en vous écoutant, Jean Pélissier, à ce que nous a dit Catherine Emelée Périssol, qui est médecin hein, et qui travaille beaucoup sur les émotions. On a fait une émission, on évoquait l'amour sous toutes ses formes, etc. Et qui m'a donné une définition de l'amour que j'ai trouvée merveilleuse. Elle nous a dit l'amour, bah, c'est déjà toutes nos cellules qui s'aiment et qui essayent ensemble de faire pour le mieux pour nous.
C'est magnifique. C'est très très beau. Et c'est ce qu'on appelle, ce que je vous ai appelé tout à l'heure, le sourire du cœur, le sourire intérieur. On sourit à tous nos organes, toutes nos cellules. Et du coup, ce sourire-là favorise, libère complètement la circulation de sang et d'énergie. Et du coup, il n'y a plus de stagnation. Et quand il n'y a pas de stagnation et une augmentation importante de la batterie des reins, eh bien, on ne tombe pas malade. Et c'est le but du jeu. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, Secret Centenaire.
Eric, ça y est, vous avez trouvé un petit coin tranquille ?
Je crois.
Alors, on vous écoute. Ah, ben, ouais. Votre voix va mieux. Tout va bien.
Voilà, déjà. Ouais, ouais. Alors, moi, comme je commence déjà à avoir un certain âge, et puis j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai eu l'occasion de vieillir prématurément, on va dire, depuis quelques années. Et puis de retrouver la santé, quoi. De retrouver un équilibre, voilà.
Vous avez quel âge aujourd'hui, Eric ?
J'ai 62 ans. Et ça fait 8 ans que je ne travaille plus suite à une grosse maladie. Et puis un deuxième gros souci de santé cette année. Et puis donc si je veux me maintenir en forme et de bonne humeur, il a fallu que j'y travaille, quoi. Mmh. Et je dirais que j'ai réfléchi.
Mais c'est bien déjà de prendre conscience que ben il faut un petit peu de, allez, on va dire, de prise de conscience, quoi. C'est bien déjà de le dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser en victime et qui finalement...
Bien sûr, et qui... J'aimerais dire, donner une note positive aussi, c'est que quel que soit l'âge où on commence à se prendre en charge, même si on a déjà un passif, eh bien, on peut retrouver un nouvel équilibre qui fait que ce vieillissement précoce que vous pensez avoir peut, lui, entre guillemets, perdurer encore pendant 20-30 ans, dans le sens où vous pouvez trouver cet équilibre-là.
Rien n'est jamais perdu et ça n'est jamais trop tard, oui. Et puis, quand je disais vieillissement précoce, c'est parce que, bon, j'ai eu un cancer et de la maladie et les traitements vous mettent un bon coup derrière la tête et... Il y a des états de grande fatigue qui ressemblent à un état comme si on avait 40 ans de plus, quoi.
Bien sûr.
Voilà.
En tout cas, merci. Je suis obligée malheureusement de vous couper, Eric, parce qu'on est en fin d'émission, mais merci d'avoir témoigné, parce que c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir que malgré parfois des états de santé difficiles, etc., on a envie de se prendre en main. Et c'est tout le propos de votre livre, hein, Jean Pélissier, c'est de donner aux gens toutes
envie
les pistes.
Envie de pratiquer toutes les pistes, et que ça soit logique, simple. Et c'est parce que dans ce livre, vous n'avez pas ce qu'on appelle les 10 000 techniques. 10 000, c'est, il y a 1000 techniques, mais tout le monde connaît plein de techniques. Mais vous leur demandez, eh ben, qu'est-ce que tu as fait pour t'occuper de ta santé depuis ce matin? C'est au quotidien, et là j'insiste, qu'on doit apprendre petit à petit à générer certaines pratiques quotidiennes pour pouvoir trouver un équilibre qui fasse que, on évite de tomber malade.
Eh bien, je vous souris, Jean Pélissier, et je souris aussi à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, merci à tous. Ça s'appelle Secret de centenaire, c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Jean Pélissier. On va continuer, bien sûr, avec C'est votre avenir. Je vous laisse en compagnie de C'est votre avenir. Demain, on retrouve Sophie Peters et on va parler des malentendus, parce que c'est vrai que finalement, on croit qu'on communique, mais on communique finalement pas si bien que ça. Alors, comment éviter les malentendus ou en tout cas oser se rendre compte qu'on n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde et donc passer au-dessus de ces malentendus. À demain.